Bonjour, enchanté.
Ouais. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de toi, qui es-tu et donc sur quel sujet tu travailles?
Ok, ouais. Du coup, je suis Pierre Watten, je suis un animateur qui vient de Bruxelles. J'ai commencé à travailler en 2019. J'ai d'abord fait l'école Albert Jacquard, puis j'ai fait la Cambre, un master, donc je suis sorti en 2019. Et depuis, je travaille sur pas mal de longs métrages, pas mal d'autres types de productions aussi, séries, un peu de courts métrages, quelques projets commerciaux aussi. Et là, depuis. Enfin, je sais pas si tu veux que je fasse une liste des films sur lesquels j'ai bossé ou. Ouais.
Non, c'est
de fou,
ça peut être
cool. Ouais, ok. Depuis 2019, mon premier long métrage sur lequel j'ai bossé, c'était Où est Anne Frank. C'était une adaptation du journal d'Anne Frank, une adaptation libre de Harry Fullman. Après ça, j'ai bossé sur un long métrage norvégien qui s'appelle Titina, qui avait été coproduit ici aussi à Bruxelles. En fait, en gros, depuis 2019, le gros de ma carrière, je l'ai fait en étant basé à Bruxelles. Et là, c'est seulement récemment, depuis octobre, que je suis parti en Irlande pour bosser dans un autre studio à Cartoon Saloon. Mais sinon, le gros de ma carrière s'est fait ici, principalement du long métrage et dans différents studios bruxellois. Donc après Anne Frank, j'ai bossé sur Titina, ce film norvégien qui se coproduisait dans un studio qui s'appelle Sousa. Après ça, j'ai bossé sur Sirocco à Squarefish. J'ai bossé sur une série Arte après ça qui était très chouette, Boys, Boys, Boys à Take 5 et à Millefeuille. Et ensuite, j'ai bossé sur le long métrage sur la vie de Marcel Pagnol qui est projeté ici au festival. Et c'était, je pense, le plus long projet sur lequel j'ai bossé. Je suis resté là-dessus un an et demi, c'était un peu long.
Donc du coup le film c'est Marcel et Monsieur Pagnol.
C'est ça, ouais.
On l'a vu pour la première fois donc à Cannes l'an dernier.
Je crois, ouais.
Et est-ce que tu sais déjà est-ce que tu connais un peu le voyage qu'il a eu depuis? Est-ce qu'on l'a vu autre part?
Je sais qu'il est passé à Annecy. Il est passé à Annecy du coup l'année passée. J'imagine dans plusieurs festivals. Je me demande s'il n'était pas aux Annie, mais je suis pas sûr. Je suis d'un peu loin. Je suis désolé.
Il y a pas de souci vraiment. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton poste sur ce film? Est-ce que c'est un poste différent de ce que tu avais avant?
Ouais, c'est vrai, j'ai pas trop expliqué. Donc, généralement, je suis plutôt animateur. J'ai commencé en étant assistant animateur sur le premier boulot que j'ai fait, donc le journal d'Anne Frank. Je sais pas si tu veux que j'explique un petit peu aussi en quoi consiste les boulots à ce niveau-là. En gros, quand assistant animateur, ça englobe, en disant ça, c'est un terme un peu large qui peut englober différents type de métier. Généralement, ça va englober plutôt ce qu'on appelle le cleaner. L'idée, c'est vraiment de passer après le département animation pour revenir avec le trait final. Là, dans le cas de la production Anne Frank, c'était un peu particulier. On ne donnait pas le trait final, mais en gros, on venait agrémenter les animations faites par le département animation en rajoutant des détails qui manquaient, en rajoutant des animations secondaires, on va appeler ça, donc des vêtements, par exemple, en corrigeant des erreurs qu'ils avaient pu laisser dans l'étape précédente. Et voilà, ça c'est le travail d'assistant. Donc j'ai commencé en étant assistant, et puis après ça, le long métrage suivant sur lequel j'ai bossé, je suis devenu animateur. Et depuis, je travaille principalement en tant qu'animateur sur les productions dans lesquelles je suis. Donc animateur, c'est vraiment la partie du boulot où tu fais bouger les personnages. Donc on va appeler ça animation rough pour commencer. Et l'idée, c'est vraiment, tu reçois le plan, généralement en noir et blanc, en tout cas tu as le décor qui est quand même déjà posé pour savoir un peu dans quel environnement va se passer l'action, tu as le storyboard et tu as généralement un posing pour montrer quelle action va se passer dans le plan, et moi après je viens pour dessiner le personnage autant de fois que nécessaire pour faire bouger et lui faire faire l'action que demande le plan. Donc ça c'est le poste que je fais généralement. Là sur donc, le Marcel et Monsieur Pagnol, j'ai commencé en tant qu'animateur justement, et en milieu de prod, je suis passé lead animateur, donc ça fait qu'en gros, j'ai servi plutôt d'assistant au superviseur, donc c'est-à-dire que c'est un poste un peu à responsabilité, où tu gères un tout petit peu l'équipe en même temps. Je continue à faire de l'animation, c'était un peu l'avantage ou le privilège de pas être non plus superviseur, c'est que j'avais pas que des tâches de gestion, j'étais principalement occupé à repasser notamment sur le plan des autres animateurs, pour finir de corriger les dernières petites retouches avant d'envoyer les plans au studio principal en France. Et voilà, c'était ça mon poste.
Très stylé, ça c'est très cool, lead animateur. Est-ce que, donc du coup, t'es arrivé sur ce projet Marcel et Monsieur Pagnol.
Ouais.
Est-ce que t'étais déjà familier de Marcel Pagnol
Un petit peu, mais vraiment juste ce que j'en ai appris à l'école. Je me rappelle que j'avais un prof de primaire qui était absolument fan de son œuvre. Du coup, j'ai plus ces souvenirs d'enfance de primaire encore avec ce vieux prof qui était adorable et qui nous parlait de Marcel Pagnol avec des étoiles plein les yeux. Mais sinon, non, c'est pas plus que ça.
Est-ce qu'ils vous ont demandé un peu des rattrapages, en mode, est-ce que vous devez voir tel film ou pas?
Pas tellement. Ah, c'est vrai que quand même, en début de prod, on avait quand même des références un peu filmées, de, alors forcément de films de Pagnol, et aussi, notamment d'interviews aussi de Pagnol, pour voir la façon dont il bougeait, un peu ses mimiques, etc. Mais c'est plus du travail fait en amont, j'ai l'impression, en pré-production, que réellement, nous, à l'étape où on arrive en production, où tout est déjà un petit peu carré et cadré pour pouvoir juste nous lancer dans le travail et globalement exécuter le plus rapidement possible dans les délais imposés, quoi.
On sait qu'il y a souvent une contrainte dans les films d'animation, c'est le budget, que parfois il y a des films qui sont un peu ric-rac. Est-ce que là, Marcel et Monsieur Pagnol, ça a été un film qui a été fait sous cette pression? Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là? Tous les films passent un peu.
Ouais, c'est un peu le problème habituel des films. Ici en Europe, il y a énormément de problèmes de budget pour financer des longs. Enfin, de manière générale, financer l'animation, c'est un énorme souci. Enfin, il y a beaucoup de difficultés à financer avec des budgets corrects des films d'animation. Dans le cas de Pagnol, je pense qu'ils avaient un budget relativement correct, mais ça a été une production particulière où ils ont tenté. Je pense qu'il y a eu pas mal d'allers-retours dans la production, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on a. En tout cas, à mon échelle, j'ai ressenti quand même des pressions un peu de deadline et du coup de manque de budget, mais qui vient plus d'une pipeline particulière, je pense, globalement, quoi. Mais de manière générale, c'est vrai que sur pratiquement tous les projets dans lesquels j'ai travaillé, alors c'est géré toujours de manière très différente, etc., mais on se retrouve toujours d'une façon ou d'une autre attrapé à la réalité du budget et à la réalité de devoir faire avec ce qu'on a, quoi, dans ce cadre-là. Ça fait partie un peu des difficultés du métier.
Pour revenir un peu sur comment tu faisais ton travail, est-ce que quand toi tu étais entré en scène dans l'animation, est-ce qu'il y avait déjà la voix? J'imagine il y avait déjà les storyboards, mais est-ce que vous aviez déjà la voix, donc notamment de Laurent Lafitte qui interprète Monsieur Pagnol?
Alors non, c'est pas habituel justement. Alors généralement dans une pipeline classique et un peu bien cadré, tu travailles sur des plans d'animation avec une voix définitive, parce que forcément l'idée c'est que tu fais bouger tout le personnage, donc tu fais aussi bouger ses lèvres pour que ça matche avec le dialogue, etc. Donc il vaut mieux travailler avec les voix définitives. Dans le cas de Marcel et Monsieur Pagnol, ils n'avaient pas encore les enregistrements définitifs. On avait des voix tests en fait, qui étaient faites avec les acteurs. Ils avaient filmé le film avec des acteurs live au préalable, donc on travaillait avec toutes des références live pour l'animation, et donc on avait les voix des acteurs utilisées pour la captation live. Je pense qu'ils en ont utilisé, ils en ont gardé certaines de ces voix d'origine dans le film final, mais globalement tous les personnages principaux ont été redoublés par la suite. Donc ce qui fait que il y a une partie du travail d'animation qui, je pense, dans le film final n'est pas tout à fait précis par rapport au doublage, et ça c'est aussi le regard d'animateur, mais ce qui fait qu'on peut pas s'empêcher de le remarquer, quoi. Mais ouais, c'est plus... tu as raison, normalement dans une pipeline classique ça devrait être, on travaille sur les doublages finaux généralement, mais là spécifiquement dans cette production là c'était pas le cas.
Tu dis qu'il y a eu des séquences filmées au préalable, est-ce que donc du coup toi encore plus en tant que lead animateur, est-ce que t'as dû faire de la rotoscopie ou est-ce qu'on n'était pas du tout sur cette méthode de travail?
Si, alors justement c'était une pipeline hybride un peu où c'était assez intéressant. Après c'est pas ma façon de travailler d'habitude, donc c'était un peu challengeant de se retrouver dans une pipeline aussi bizarre en quelque sorte, mais en gros je suis arrivé au début de la production où la pipeline était encore en phase de test en quelque sorte, donc j'ai un peu vu l'évolution de travailler avec ces références live notamment. Donc on savait pas toujours très bien au début sur quel pied danser, entre rotoscopie complète ou interprétation un peu plus libre des footage. Et au final on est parti sur du coup une méthode hybride avec le superviseur anime, qui a amené l'idée d'utiliser les références live globalement pour capter les poses clés de l'animation, donc vraiment les poses principales d'un plan, et après ça on désactive la référence live et on repense ça en animation traditionnelle pour essayer de garder un rendu plus traditionnel justement. La difficulté aussi de cette production, je pense, c'est que ça a été coproduit entre différents pays, c'était international, et je pense que tous les studios n'ont pas eu tout à fait la même méthode, ce qui se ressent peut-être aussi dans le produit final, mais ça c'est de nouveau mon regard d'animateur probablement qui parle.
Est-ce que quelque chose qui a un aspect qui a aidé à garder cet aspect traditionnel, c'est le fait que les personnages ont quand même des chara-design pas spécialement réalistes, on sait qu'ils ont des têtes un peu particulières, est-ce que ça a contribué à pouvoir rester dans la fiction et pas avoir le look rotoscopé qui fait un
complètement un ouais bizarre. Non bien sûr, de toute façon dans tous les cas, même quand on tâtonnait un peu et qu'on n'était pas sûr de la pipeline exacte et qu'on partait plus sur de la rotoscopie plus classique, dans tous les cas effectivement les têtes n'étaient pas rotoscopables parce que ce n'est effectivement comme tu dis c'était pas des designs réalistes, donc c'était plus pour les vêtements et le corps et, la, et les silhouettes que, qu'on utilisait la rotoscopie et, le, et l'anatomie en fait simplement des acteurs qui ont déjà été captés quoi. Donc après la tête c'est là, que, c'est là qu'on revenait nous avec un travail un peu plus artisanal de dessin traditionnel quoi, pour les bouger en trois dimensions.
Est-ce que tu sais s'il y a eu des voyages en Provence ou dans le sud où se passe donc une grande partie de l'action, est-ce que donc il y a une partie de l'équipe qui est allée pour se renseigner et être proche de la réalité, est-ce que donc ils ont par exemple pris des photos auxquelles tu devais te rapporter?
Je l'ai pas du tout ressenti moi à mon échelle, mais ça c'est plutôt du boulot de la pré-production, donc vraiment toute l'étape en amont de quand moi en tant qu'animateur on arrive vraiment dans l'étape de production du film, donc c'est vraiment quand tout est déjà bien mis en place et censé être cadenassé pour pouvoir nous permettre de travailler efficacement. Donc là tu vas plus parler je pense d'étape de recherche, ce qui va vraiment être l'étape de pré-production où là effectivement ils vont faire un peu des recherches graphiques encore, de l'inspiration notamment pour l'écriture et pour les settings un peu de tout l'ensemble du film. Donc c'est du travail de recherche qui a été fait, mais effectivement c'est déjà fait en amont par rapport à mon étape quoi.
D'accord. Moi j'avais une question de quelque chose que j'avais remarqué en voyant le film, donc du coup pour la première fois à Cannes, c'est au tout début j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup des plans larges alors qu'il parle de théâtre, et après j'avais l'impression qu'on était beaucoup plus sur des plans cinéma alors qu'il devient réalisateur. Est-ce que c'était une intention, est-ce que c'était vraiment l'une des intentions du réalisateur?
Alors ça évidemment c'est plus au réel de répondre, mais de mon échelle, de ce qu'on a compris des intentions, c'est effectivement ça, c'est toute la première partie très théâtrale est justement mise en scène comme une pièce de théâtre, ce qui en tant qu'animateur a posé pas mal de difficultés techniques aussi, parce que on parle du coup de plans caméra posée avec des personnages plein pied, donc qu'on voit réellement en entier dans l'écran. Sur des plans parfois une minute, donc des plans super longs pour du cinéma d'animation, c'est très rare. Et ça fait qu'on avait parfois des animateurs sur le même plan pendant plusieurs mois, littéralement, ce qui n'est pas du tout courant dans une production d'animation. Donc ça a demandé effectivement un travail particulier dessus, et c'est une intention, je pense, du réel, effectivement, de rester pour la partie théâtrale sur une mise en scène très théâtrale, et puis effectivement de partir sur des plans plus rapprochés et plus cinématographiques dans toute la seconde partie du film, avec le petit encart du cinéma muet où t'as la transition aussi entre les deux. Ouais.
Il y avait autre chose que j'avais remarqué, j'avais envie de savoir si c'était volontaire ou juste dans ma tête, c'est dans le style graphique, et donc c'est bien que ce soit un animateur qui puisse me répondre, c'est dans la direction artistique ou même plus précisément dans le caractère design. Je trouvais que ça me rappelait beaucoup le style graphique de Professor Layton ou des jeux de cette époque. Est-ce que, alors je sais pas si c'était, ça va être dur de savoir si c'était déjà là lors du caractère design, mais est-ce que c'est quelque chose qui avait été évoqué quand vous avez travaillé dessus, ou est-ce que c'est quelque chose dont t'es familier?
Pas du tout. Je pourrais pas vraiment te répondre là-dessus. Je sais je pense qu'entre nous, en tant qu'animateurs, entre animateurs, je pense qu'on s'était peut-être fait la réflexion, ouais, tiens, ça ressemble un peu, mais on n'a aucun contrôle sur les designs en eux-mêmes dans ce département-là. On parle de nouveau d'une étape qui intervient à la pré-production, donc vraiment dans le processus de fabrication au préalable quoi, du film. Et ouais, je sais que les chara-design ont pas mal évolué entre le début. Par exemple, pour rentrer sur une production d'animation, généralement on postule et on doit passer un test, donc on anime un plan du film, et en fonction de si ça correspond ou pas, on est pris ou non. Un peu comme un entretien d'embauche quoi. Et le test que j'avais passé pour bosser sur ce film, je me rappelle que j'ai animé Pagnol du coup, et il ressemblait en rien au design final quoi. Donc le design a pas mal évolué depuis vraiment sur les mêmes derniers mois de pré-production encore quoi.
Alors j'avais encore une question, mais j'ai peur que de nouveau ça soit un peu avant dans les intentions, mais je suis quand même intéressé d'avoir ton avis là-dessus. On est, comme on disait avant, sur une icône vraiment ancienne, on est au début du XXe siècle, c'est Marcel Pagnol et tout. Et on se retrouve avec un film qui est comme en dessin animé, qui j'ai l'impression est à portée des enfants. Est-ce que quand tu travaillais dessus, tu disais que c'était pour un film jeunesse, ou est-ce que tu disais que le film sur lequel tu étais en train de travailler devait également s'adresser aux adultes?
Dur à dire. Ouais, très dur à dire. Sur ce projet-là en particulier, je suis pas sûr de m'être tant posé la question que ça, je pense que je partais pas du principe que c'était un film jeunesse, parce que justement, comme tu dis, on parle d'un auteur du 20e, début du 20e, et je partais du principe un peu que, et même dans la réalisation, avec des plans assez lents et vraiment juste un biopic comme ça, j'attends plus ça, une portée de adulte ou jeune adulte, mais effectivement, je voyais moins ça comme un film jeunesse, mais au final, le résultat peut s'adresser à la jeunesse, j'imagine, en tout cas, je pense que c'est tout à fait regardable.
Je pense complètement. En plus, j'avais entendu qu'il y avait des recherches qui disaient que plus un film est lent, plus il peut s'adresser à un jeune public, en fait. Et que c'est pour ça, il y a plein de gens qui disaient les Miyazaki, les Totoro, entre autres, sont super pour les plus jeunes comme premier film, parce que comme le découpage est vraiment vraiment lent, pour leur cerveau, c'est beaucoup plus simple plutôt qu'un montage.
Épileptique,
Ouais, vraiment. J'avais encore peut-être quelques questions vis-à-vis de ton travail en Irlande. Donc là, tu dis que tu viens d'arriver en Irlande.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui était prémédité, où tu disais « Ah, j'ai vraiment envie d'aller là-bas » ou est-ce que ça s'est fait à travers une offre ?
Ça s'est fait à travers une offre. Après, c'est un peu un mélange des deux. J'ai toujours eu très envie de travailler là-bas. Déjà en tant que voyage, l'Irlande, ça m'a toujours un peu attiré. Donc j'étais heureux de pouvoir aller dans ce pays-là. Et le studio en particulier, Cartoon Saloon, j'aime énormément les films qu'ils ont produits jusqu'à présent, donc j'avais aussi un peu l'ambition de me dire, enfin, l'espoir de pouvoir travailler là-bas un jour, disons. Et quand l'offre est tombée, c'est tombé sur une offre LinkedIn simplement, où j'ai vu le poste et j'ai postulé de façon très traditionnelle, quoi, et j'ai été pris. Et du coup, voilà. Donc ça s'est fait de façon très classique dans la façon dont j'ai postulé, la façon dont j'ai obtenu le job, mais c'est vrai que donc c'était pas prémédité, quoi, disons, mais je suis quand même très content d'atterrir là.
Félicitations.
Merci.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de Cartoon Saloon, quelle production ils ont fait, comment tu les as découverts, enfin, la vie que t'avais dessus?
Du coup, je les ai découverts, je sais plus maintenant c'est quel premier film que j'ai vu d'eux, c'était peut-être Wolfwalkers, le premier que j'ai vu. Mais j'aime juste beaucoup leur style d'histoire, leur univers graphique, la trilogie, comment on appelle ça encore, c'est la trilogie folklorique ou la trilogie celtique, avec du coup le peuple loup, Wolfwalkers, le chant de la mer et Secret Kells. Ils ont vraiment un univers très magique et très empreint du folklore irlandais que je trouve très charmant, et j'aime juste beaucoup... les thèmes qu'ils abordent aussi dans leurs films, tout est très charmant, quoi. Donc, voilà.
t'as l'air de te plaire là-bas, enfin, ça a l'air d'être l'espace qui te parle.
C'est très chouette, ouais. J'aimerais beaucoup parler du projet sur lequel je travaille, mais pour le coup, c'est sous Indie et tout ça, j'ai vraiment pas le droit, mais... mais bon, c'est...
Et est-ce que t'as l'impression, du coup, que Cartoon Saloon, vu que les grands pays d'animation, ça reste quand même... Donc, il y a les États-Unis qui ont une certaine mainmise avec Pixar, Disney, il y a le Japon qui a toute cette industrie, et on a quand même la France et la Belgique qui commencent à bien s'affirmer sur de nombreuses scènes. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a l'Irlande qui est en train de vivre une croissance à ce niveau-là, potentiellement portée par Cartoon Saloon, où il y a vraiment une identité et que le film d'animation irlandais peut devenir un véritable genre au-delà de quelques films?
Je pense que oui. Je pense qu'ils ont une industrie du cinéma d'animation qui est relativement florissante quand tu compares ça à l'économie globale. Je pense qu'ici en Europe, c'est un peu compliqué... avec des budgets qui diminuent globalement, que ce soit en France ou en Belgique, c'est quand même une période plutôt compliquée pour le cinéma d'animation. En Irlande, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Alors, ils sont impactés quand même par l'économie européenne, justement, ici, avec les fonds français, par exemple, etc., quand ils cherchent des aides, mais globalement, leur production reste fréquente, et ils arrivent toujours à sortir des films qualitatifs, et j'ai l'impression que c'est une économie assez... En tout cas, que c'est plutôt un milieu assez florissant là-bas, ouais. Le cinéma d'animation. Cartoon Saloon en fait partie, c'est une des grosses boîtes qui portent leurs films là-bas, mais ils ont quelques autres studios aussi assez fructueux, je pense. Il y a Lighthouse aussi qui se trouve là-bas, Boulder aussi, je pense. Bref, je pourrais pas faire la liste entière, mais...
Et pour les financements, du coup, tu dis qu'ils se reposent sur la France. Est-ce que c'est la France qui donne ces fonds, ou c'est vraiment...
Non, quand je dis la France, je me trompe probablement. Je parle plutôt du Cartoon Forum, par exemple, où en réalité, c'est vraiment les événements de rencontre entre artistes, ou en tout cas entre créatifs et producteurs et distributeurs. Donc c'est vraiment les rencontres avec les financiers, quoi, qui permet justement de trouver des soutiens et des coproductions. Ils travaillent souvent en coproduction avec la France quand même, France ou Luxembourg. Je sais que sur pas mal de leurs longs métrages précédents, ils ont travaillé avec le Luxembourg, ce qui veut dire aussi qu'une partie de la production est envoyée là-bas et est donc coproduite littéralement au Luxembourg. Dans ce cas-ci, c'est fait avec la France, ouais. comme certains de leurs projets précédents également, ouais.
Et donc avec cette édition d'Anima, comme on le sait, c'est l'Irlande qui est le pays mis à l'honneur cette année. On a justement Wolfwalkers qui est passé à une séance,
ouais.
Ou même qui a eu plusieurs séances. Est-ce que toi qui es justement dans l'animation et connaisseur de tout ça, tu t'aimerais émettre une supposition sur quel pourrait être le prochain pays qui passe là-bas, qui serait mis à l'honneur, qui est très prometteur et qu'on pourrait avoir comme pays à l'honneur l'an prochain à Anima?
Anima aucune idée. Je t'ai pas préparé cette question.
Sinon, est-ce que toi t'as eu l'occasion de voir quelques films du festival où tu viens d'arriver?
J'ai pas encore fait beaucoup de séances. En fait, j'avais qu'une seule séance jusqu'à présent. J'ai vu hier Alan n'est pas obligé.
Qui
était très beau mais très dur. C'était pas un sujet facile forcément. Mais non, j'ai apprécié la séance, ouais.
Et est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Il y a des films qui te tentent déjà?
Ce soir, je vais voir c'est du belge pour voir un peu ce qui a été fait ici et tous les films des copains que j'ai pas encore vu. Et voilà.
Il y a des personnes que tu connais qui sont dans la sélection?
Ouais.
Ah, c'est cool ça. je crois qu'on va arriver au bout de cette interview. Est-ce que toi, t'as quelque chose que tu veux ajouter, quelque chose à dire?
Non, merci de m'inviter, ça fait plaisir. Pour les artistes qui nous écoutent, soutenez la BRACA, la Fédération des corps de métiers de l'animation. Inscrivez-vous si vous y êtes pas encore. Ouais, c'est important.
Peut-être tant que tu en parles, moi j'entends ça beaucoup dans le jeu vidéo, mais je crois que c'est le cas aussi dans l'animation. Il y a beaucoup de licenciements. Est-ce qu'on est dans une situation professionnelle où là c'est un peu en péril, surtout avec l'intelligence artificielle qui arrive?
L'intelligence artificielle, c'est sûr, ça va soulever de gros débats dans les années à venir, et c'est déjà le cas maintenant. Je le sens pas encore moi à mon échelle en tant qu'animateur simplement, mais je pense que c'est plutôt des questions qui se posent au préalable et sur les distributions de budget et notamment les dossiers qui sont montés pour les appels à projets, etc. Où là, il faut réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que sinon ça fausse complètement, je pense, les appels à projets qui peuvent être faits avec intelligence artificielle, etc. Donc ça soulève de vraies questions éthiques notamment, et surtout aussi sociales par rapport au corps de métier.
Et pour finir sur une bonne note...
ouais, désolé.
Non, mais c'est moi qui ai posé la question. Est-ce qu'il y a un film d'animation que toi t'adores et que t'as envie de mettre en valeur, là, si t'as 30 secondes pour en parler, pour encourager les gens à aller le voir?
Qui passe à Anima, là, tu veux dire?
Pas spécialement, juste en général, peut-être une pépite que t'adores et qui est pas assez connue, ou juste un film que les gens...
Ça me fait plaisir de parler de celui-là alors, mais parce que j'ai travaillé dessus, mais donc je prêche un peu ma chapelle, mais c'est Sirocco et le Royaume des Courants d'Air. C'était vraiment un super film, j'ai beaucoup aimé travailler dessus, et c'est une histoire, enfin c'est un film pour enfants que je trouve très mignon et très j'aime beaucoup l'univers fantastique qu'il crée, et je pense que c'est dommage, il a probablement pas eu le succès escompté, mais donc voilà.
C'est parfait, on encourage les gens à aller le voir, et donc merci beaucoup.
Merci à toi.